Libradio, www.libradio.org. Le frisson de la radio. Le murmure des mots. Le soubresaut de l'idée. Et le séisme de l'acte. www.libradio.org.
On avait un début de discussion, en fait, parce qu'on n'a pas toutes les réponses et on s'attendait un peu à ce qu'on les trouve ou on trouve des pistes de solutions tout le monde ensemble. En fait, si vous voulez, pour les gens qui ne connaissent pas ce qui s'est passé ensuite, parce qu'on finit en 1915, donc très rapidement, ce qui s'est passé par la suite, c'est que la répression a été de plus en plus forte. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, là où est-ce que, profitant du contexte où les gens étaient accusés très facilement de traîtrise à la patrie et tout ça, il y a eu plusieurs morts, plusieurs ont été renvoyés du pays, et donc les IWW ont été... à partir de ce moment-là, ça sonne, à partir des années 20, ça sonne la fin du grand mouvement de masse qu'ils ont connu au début du 20e siècle. Et à partir de ce moment-là, ça va plutôt être des actions et des groupes locaux qui perdurent jusqu'à aujourd'hui, finalement. Aujourd'hui, on est 4000 membres autour du monde, plutôt concentrés en Amérique du Nord et en Europe. En Europe, le plus gros est en Grande-Bretagne.
J'ai une question. Le macartisme a commencé dans quel...
Le macartisme, c'était dans les années 50, après la Deuxième Guerre mondiale. Le macartisme n'a pas non plus aidé. En fait, ce que Zine disait est vraiment intéressant parce que tout ce qui a pu être utilisé pour faire peur aux gens par rapport au socialisme a été utilisé contre le IWW. Donc, que ce soit le bolchevisme ou le macartisme dans les années 50. Aujourd'hui, moi, je viens du Québec, donc j'ai une petite expérience là, qui commence à dater. Ça fait 2 ans que je suis ici maintenant. Mais eux, ils sont toujours actifs. Moi, c'est là-bas que je suis devenue une membre des IWW. Les gens qui sont là-bas... Les gens qui sont là-bas m'ont appris comment faire du travail syndical à la IWW. On a encore des formations qui se font autour du monde, qui sont un peu les mêmes formations un peu partout parce que les pratiques s'échangent. Ensuite de ça, là-bas, ils ont plusieurs groupes IWW syndiqués de manière publique. Que ce soit des restaurants, les gens qui font du sous-titrage pour les personnes sourdes, les gens qui travaillent dans le milieu associatif en éducation. Évidemment, la lutte n'est jamais terminée, même chez les IWW, il y a beaucoup de répression. La semaine dernière, j'entendais des amis de Montréal, il y a un de leurs camarades qui s'est fait renvoyer, donc ils sont en lutte dans un de leurs syndicats. Sinon, en Europe, je connais mieux le cas des gens qui sont en Grande-Bretagne. Je crois que c'est parce qu'ils sont vraiment beaucoup. Justement, étant donné qu'on est un groupe mondial, les communications se font bien. Justement, il y avait un exemple de solidarité entre Londres et Montréal. Une compagnie qui s'appelle Red Bee Media, qui sous-traite ses emplois au Canada et aux États-Unis avec des conditions de travail moins bonnes au Canada et aux États-Unis que les conditions en Grande-Bretagne. Donc, les gens à Londres ont fait des piquets informatifs à l'entrée de la compagnie et ils se coordinent avec un syndicat espagnol et un syndicat français. Et dans le syndicat français, pas IWW, là, un syndicat mainstream, les gens ont refusé de prendre le travail qui est redirigé de Montréal directement. Ensuite de ça, en Grande-Bretagne, ils se mobilisent aussi autour d'un membre qui est en prison présentement. Donc ça, ça fait partie des activités aussi historiques des IWW. On a des membres qui sont en prison et on les soutient de quelconque façon. Sinon, ce qui est très gros présentement chez les IWW, c'est les courriers à vélo. Théo pourra vous en parler un peu plus tard. Et par exemple, une lutte locale à Manchester, les IWW viennent aussi, il y a un membre qui vient de perdre leur emploi. Et en plus, leur employeur leur doit 1000 livres en heures de travail impayées. Donc, présentement, ils ont fait ce qu'ils appellent, eux, des communications ZAP. C'est quand on noie le patron sous des téléphones, des emails, des fax de la population courante. Ils ont fait des piquets informatifs, ils ont pétitionné aux clients et les clients ont envoyé du support, ont envoyé des emails de support à la compagnie. Et ils ont aussi demandé des frais, de l'argent parce que les IWW travaillent aussi avec des frais légaux. Donc, ils travaillent sur les deux côtés. Donc, il faut aussi faire ça. Sinon, nous, on travaille beaucoup de manière, c'est de la manière dont c'est construit le IWW. En Suisse, on travaille beaucoup avec les gens qui sont en Allemagne et en Autriche. Et par exemple, ce qui se passe à Vienne, ils s'organisent sur les courriers à vélo, les Delivery Union. C'est une de leurs campagnes principales. Il y a aussi beaucoup de membres à Vienne qui sont dans le milieu du travail des services sociaux. Et présentement, à Vienne, il y a des conflits de travail. Donc, les membres IWW s'organisent dans leur propre travail, mais en utilisant les méthodes qu'ils ont tous apprises ensemble et les formations qu'ils ont tous apprises ensemble. Ils donnent aussi des informations pour les gens qui ont des difficultés à l'aide sociale et avec les centres d'emploi. Étant donné que c'est beaucoup de gens qui font du travail social, ben c'est comme ça aussi qui aide la communauté. Et nous, ce qui se passe au JAM, donc en Suisse, là, ça fait un an qu'on existe. Ça fait
un peu près
un an et demi qu'on existe. Là, pour l'instant, on a surtout été pris par la stabilisation de la structure interne. Pour les gens qui se rappellent, quand je suis venue vous voir il y a un an, un mois, on était 6, maintenant on est 31, majoritairement à Berne et à Zurich. On a eu de la formation sur l'organisation syndicale des IWW. On est aussi en train de préparer notre structure, tous les trucs, là, compte en banque, s'organiser pour avoir un local ou faire nos réus et tout ça. Les communications, avoir quelque chose qui se tient finalement. On a été occupé à se faire connaître par les syndicats plus mainstream aussi, à essayer de faire des liens avec eux. À voir comment ça marche, tout ça, et par des groupes d'activistes.
Mainstream, ça veut dire plus normal.
Oui, désolé, oui, exactement. Ben, comme,
les plus comment on peut dire
le flow principal.
Le principal, voilà. Merci.
Désolé, c'est vrai. sinon, ils ont organisé une chorale des IWW à Berne, donc les jolies chansons que vous entendiez dans le film, ben, ils les font, eux. Et ils voulaient s'organiser pour peut-être aller sur des piquets de grève et chanter et tout ça. Donc, ils avaient des beaux projets. Donc, pour l'instant, on n'a pas de campagne officielle sur un lieu de travail, mais depuis les formations, les gens se sentent mieux outillés. Donc, c'est ça. Il y a des gens qui ont des idées et surtout qui travaillent dans des endroits où ça ne va pas du tout. Donc, qui maintenant se sentent plus à l'aise de commencer à s'organiser dans leur milieu de travail. Voilà, nous, ce qu'on voyait dans les avant et maintenant dans le film, c'est que j'entendais, je sais pas qui a dit ça là, mais il y a rien qui a vraiment changé. Ben c'est ça, nous, dans les IWW, c'est un peu ça qu'on pense, dans le sens où oui, il y a des trucs qui sont pas pareils, visiblement, mais en même temps, ben ce qu'on vit présentement, la précarité, les mauvaises conditions de travail. Ça existe encore, il y a encore plein de raisons de s'organiser. Donc, ben voilà. Puis sinon, il y a des conflits de travail aujourd'hui, encore à Genève, si vous voulez, on en parlera collectivement. Mais sinon, je laisserai Théo pour...
Ben, en parlant de mauvaises conditions de travail et de différents travails précaires, moi, je vais vous donner l'exemple
des coursiers à vélo avec les exemples Genevois. Du coup, ben, moi, j'ai été coursier pendant un bon moment à Genève. J'ai été viré, ouais, j'ai été viré pour pas mal de raisons. Enfin, ouais. Et du coup, les Wobblies, du coup, les IWW, ils ont été présents historiquement très rapidement dans l'organisation des coursiers à vélo dès 2005 à Chicago. Du coup, le plus important, en fait, dans les coursiers à vélo, c'est qu'il faut différencier un peu les entreprises classiques, c'est-à-dire vraiment un peu les entreprises familiales, et maintenant les nouvelles entreprises un peu à la Uber, du coup, les Deliveroo, les Take It Easy, tous ces trucs-là. Et du coup, dès 2005, ils étaient à Chicago dans les entreprises classiques pour... Pour organiser le travail, tout ça, défendre les coursiers. Du coup, à travers des caisses de solidarité, parce que les frais de santé sont extrêmement élevés aux États-Unis et le métier de coursier est quand même relativement dangereux. Je pense que vous en avez déjà peut-être vu passer quelques-uns ou quelques-unes à Genève. Ça va vite, c'est très dangereux, on peut se blesser facilement. Et du coup, c'est souvent très mal pris en charge. Ils ont créé une caisse de solidarité qui existe encore maintenant et qui va en aide à beaucoup, beaucoup de coursiers. Et en cas de renvoi aussi, parce que c'était des contrats de travail extrêmement précaires qui sont cassés très facilement. Et du coup, y a beaucoup de travail qui a été fait. Mais c'est maintenant, avec ce renouveau de ce travail extrêmement précaire, qui est le travail sur les plateformes qu'on peut dire un peu Uber, du coup, c'est juste avec un smartphone... On n'a pas de contrat de travail, on n'a pas vraiment de supérieur hiérarchique direct. Tout passe par téléphone, c'est un petit peu ce nouveau. C'est des outils anciens, quoi, de forme d'exploitation. Hein. C'est pas, y a rien de nouveau dans le capitalisme, hein. C'est toujours les mêmes ressorts. Et les IWW étaient très présents, surtout en Grande-Bretagne, à Bristol et à Leeds, dans des conflits de travail à travers le Wise Era, qui est la coordination pour tous les pays anglophones des IWW. Ils ont organisé plusieurs mouvements de lutte pour la reconnaissance de leur travail, c'est-à-dire arriver à aboutir à un contrat de travail qui est vraiment stable, avoir des hausses de salaire. Ils ont eu pas mal de problèmes avec leur hiérarchie, qui a carrément infiltré des groupes WhatsApp où les coursiers syndiqués s'organisaient pour licencier ces coursiers qui étaient du coup syndiqués. Du coup, le travail syndical reste quand même quelque chose d'extrêmement compliqué, et surtout dans des nouvelles formes de salariat, quoi. Enfin, de salariat, d'exploitation.
Statut.
Ouais, c'est compliqué, quoi, parce qu'on n'est pas, il n'y a pas de contrat, c'est une application, il suffit juste d'être déconnecté de l'application pour être licencié, quoi. Du coup, il y a vraiment, et ils sont vraiment, je pense, le IWW à la pointe pour l'organisation de ce travail-là, quoi, parce qu'il y a une forme d'auto-organisation qui est très vite mise en place, et il y a eu des luttes à Leeds et à Bristol qui ont vraiment très bien fonctionné, quoi. Il y a eu des victoires. Il y a eu une hausse de salaire, il y a eu des reconnaissances de primes, de conflits de travail. Et du coup, voilà, moi c'était ça en tout cas pour le Wise Era. En France, les coursiers aussi commencent à s'organiser à travers un collectif autonome qui s'appelle le CLIP, qui est à Paris. Il y a une branche de la CGT maintenant en Gironde, à Bordeaux plus précisément. Et après, en Suisse, quoi, c'est ça qui est maintenant intéressant, c'est qu'il y a plusieurs coursiers de Berne qui sont... syndiqués à l'IWW, ils essayent d'organiser une centrale, enfin une branche. J'ai pas de nouvelles, j'ai eu quelques nouvelles et ça va plutôt bien et ça serait vraiment très intéressant. Là, on parle encore de formes de salariat un peu plus classiques. C'est Vélo Courir à Berne et eux, c'est vraiment une entreprise où il y a quand même des contrats. Mais il y a beaucoup de conflits de travail. À Genève, il y a encore actuellement quelques gros conflits de travail entre coursiers et patrons parce que c'est des travaux qui sont durs, on est mal payé. Et du coup, ça s'organise quand même pas mal. Et puis voilà.
Une question. Ouais. Quel est le statut de ces coursiers en Alors, général, c'est des indépendants, des salariés.
Voilà. Ça, c'est une très bonne question parce que c'est. Alors oui, en général. En fait, alors à Genève, pour une entreprise classique, genre Cric, Vélo Postal, tout ça, tu es assistant de livraison, mais tu es dans une subordination. Du coup, tu es vraiment salarié. Au lieu que maintenant ces plateformes Uber, tous ces trucs-là, tu es auto-entrepreneur. Ça veut dire qu'on n'a pas un statut comme quoi tu es salarié, c'est que de ton propre gré, c'est ça qui est très drôle avec leur machin, c'est que de ta pleine volonté, tu as téléchargé l'application et tu te réjouis de faire 8 heures de vélo par jour mal payé. Quoi.
Indépendant. C'est
indépendant, voilà. Indépendant ou auto-entrepreneur.
Sur ton vélo.
Sur ton vélo, à tes frais, si tu te blesses, c'est à tes frais. Tu cotises pas pour la sécurité, tu cotises pas pour ta retraite, pardon, parce que tu n'es pas reconnu. T'as pas de contrat de travail. C'est comme un petit job en plus, comme ça. Et ils basent toute leur communication sur ça. Sur le truc un peu, c'est cool. Yeah, tu as ton smartphone, c'est chouette. Et c'est pas chouette.
Enfin, c'est chouette.
Mais quelle est la proportion de salariés, d'indépendants en Suisse et puis dans le monde?
Alors, en Suisse, ces plateformes, elles sont très peu présentes. Parce que quand il y a eu Uber Eats qui a voulu s'installer, il y a eu les coursiers se sont... Ah, ça, j'ai pas raconté, c'est vrai. Les coursiers se sont organisés pour faire pression auprès de Uber Eats et ils sont pas venus. Il y a eu des pressions, Unia a aussi aidé, en disant que c'était contraire au droit du travail suisse. Et du coup, ils sont pas venus. Il y a quand même un truc qui s'appelle Itzer, je sais pas si vous avez déjà vu, qui s'est implanté, mais qui, eux, il y a pas mal de conflits, mais ils ont quand même pas ce statut d'auto-entrepreneur. Ils sont quand même à peu près déclarés. Mais moi, j'ai des retours comme quoi il y avait des conflits là-bas aussi, plus de harcèlement sexiste et sexuel entre la hiérarchie.
Ils sont en scooter ?
Ils sont à vélo et en scooter, ouais.
Ah, et à vélo aussi.
En fait, tu fais comme tu veux, ils te donnent juste le sac, okay. Peu importe après ton moyen de locomotion, quoi. De toute façon, eux, ça les regarde pas, quoi. Du coup, tu peux même croiser des fois dans les trams, quoi. Il y en a qui sont en tram. Du coup, ils doivent pas gagner beaucoup parce que ça va pas bien vite, je pense, en tram. Bon, voilà. Mais ouais, c'est un peu un milieu du travail qui est très intéressant, quoi, les coursiers à vélo, parce que c'est quand même. Ouais, c'est du travail dur, c'est du travail pénible et c'est. Et oui, puis c'est compliqué de s'organiser parce qu'on est tous un peu à droite à gauche. Enfin, voilà. C'est une culture du travail qui est intéressante, quoi. Voilà. Si tu veux dire quelque chose, non ?
Ouais, enfin. Du coup, peut-être un peu pour ouvrir la discussion aussi. C'est vrai que c'est pas. On a discuté un petit peu avant aussi avec certaines personnes et tout ça. Je pense que c'est un syndicat qui a une culture assez. Enfin, de lutte assez intéressante et qui a gardé en fait toute une tradition de l'action directe, toute une tradition de la démocratie syndicale. Qui a été beaucoup perdu en fait, qui existait dans les années 20, dans les années 30, à Genève par exemple, avec la FOBB et compagnie et tout ça, la Fédération des ouvriers du bois, du bâtiment, et en fait qui a été beaucoup perdu en Suisse. Il n'y a plus de syndicats révolutionnaires avec des pratiques révolutionnaires en fait, et c'est intéressant que d'une certaine manière ça arrive maintenant. Parce que c'est comment dire, il y a une montée de cette espèce de nouvelles formes de travail qui sont hyper précaires, qui sont très très dures à syndiquer dedans. Bon, c'est pas nouveau, ça existait avant, mais c'est de plus en plus présent. Ou quand les gens syndiquent, quand les gens se mettent à faire des protestations ouvertement, enfin avec UNIA, avec d'autres groupes comme ça, très vite ils se font virer, très vite ils se font blacklister à l'ancienne. Qui sont, enfin, et donc c'est pour ça que des pratiques en fait de syndicalisme révolutionnaire à l'ancienne justement, c'est-à-dire cachées, d'action directe, d'organisation locale par petits groupes et tout ça, peuvent être super intéressantes. Et puis du coup, nous, voilà, en Suisse ça existe depuis pas très longtemps, ça s'organise, et puis nous, on se demande, voilà, est-ce que vous pensez que c'est des pratiques, des choses qui peuvent être utiles ici, aujourd'hui, et de quelle manière, dans quel contexte? Il y a eu pas mal de... Ça a pas mal bougé ces derniers temps avec les syndicats en Suisse. Il y a UNIA qui fait un boulot assez intéressant. Il commence à y avoir, depuis quelques années, de nouveau des grèves en Suisse, ce qui était super rare avec la paix du travail, la grève interdite et tout ça. Tout d'un coup, il y a de nouveau des grèves. Tout d'un coup, chez ABB, ils n'ont pas le droit de faire grève, mais ils font des espèces de protestations différentes, en ralentissant le travail, en faisant des trucs un peu différents. Enfin, avec tout ça, moi, je pense que justement, il y a peut-être des outils. En fait, c'est un syndicat qui est un outil plus qu'un. C'est vraiment un outil dont il faut se servir si. S'il est utile, quoi. Je pense que c'est un outil qui pourrait être assez utile dans le contexte suisse aujourd'hui, quoi.
Moi, je trouve que ça va être complémentaire à l'action syndicale traditionnelle où il y a les conventions de travail entre syndicats et patronat. Mais c'est vrai que dans certains cas, il faut mettre la pression, quoi.
Qu'est-ce qui est pensé par action directe?
Est-ce que je peux faire une parenthèse avant? Est-ce que je peux prendre des photos? Est-ce qu'il y a des gens qui...
c'est bon. Désolé.
Qu'est-ce que... Alors, par action directe, en fait, on entend par action directe toute action que les personnes peuvent faire elles-mêmes sur leur lieu de travail par elles-mêmes. Ça peut être des choses très simples, comme tout simplement aller pendant les heures de travail à 15, discuter dans le bureau du patron et lui expliquer clairement ce qui ne va pas. Ça peut aller plus loin, ça peut aller à des... par exemple, ce que faisaient un temps les cheminots en France quand ils n'avaient pas le droit de grève, c'est qu'ils utilisaient les failles du règlement, où ils se disaient tout d'un coup, on va observer totalement le règlement. Tous les trucs stupides du règlement, on les observe. Alors tous les ponts dans le règlement, il fallait qu'ils soient vérifiés par les cheminots avant de pouvoir les passer. Donc chaque fois, le train s'arrêtait, le conducteur descendait... demander à son équipe d'aller vérifier le pont et tout ça. Les trains, tout le pays était bloqué. Ça, c'est de l'action directe, par exemple. Ça peut être, sur certaines grèves, pour éviter qu'il y ait ce qu'on appelle des jaunes, c'est-à-dire des gens qui sont engagés pour faire le travail des grévistes. Pour éviter qu'il y ait des jaunes, les ouvriers prenaient des souvenirs avec eux. Ils prenaient des petites pièces de la machine et la machine ne pouvait plus fonctionner sans ça.
Du sabotage,
voilà.
Ça ne peut pas mener à des licenciements et à des listes noires et tout ça. L'autre en face, le patron, il a des millions, voire des milliards. Il s'en fiche. Ça ne lui fait qu'une.
Ça dépend.
Contretemps.
Je pense qu'en
qu'il n'aimera pas, mais ça ne va pas le toucher plus que ça, non?
Je pense que ça dépend des contextes, en fait. C'est pas.
L'action directe, je pensais plus à quelque chose comme Ravachol, quoi.
Non. Pour donner un autre exemple. Par exemple, il y avait chez les coursiers à vélo, c'est ce qu'ils ont fait en Angleterre, c'est qu'ils se sont tous déconnectés en même temps de la plateforme, en fait. C'est-à-dire que d'un coup, plus personne pouvait commander de nourriture sur la plateforme parce que plus aucun coursier était connecté. Et ça bloque le travail pendant 2 heures et ça fait perdre justement des sous au patron. Mais surtout, c'est que vu qu'ils étaient un front direct, le patron n'a pas pu tous les licencier parce qu'il perdait toute sa main d'œuvre d'un coup. Enfin, c'est plein de petits trucs comme ça. Et il y a les Wobblies, ils ont beaucoup de littérature sur l'organisation de plus petites choses qui permettent de nuire à la production, quoi. Je pense que c'est quand même ça un petit peu l'idée.
Je pense c'est des choses qu'il faut que ce soit réfléchi en groupe, que ce soit fait de manière intelligente. Ça marche selon la force de l'idée et le moment opportun et le nombre de personnes qui sont prêtes à faire ça. Et
ça dépend aussi beaucoup de l'entreprise. Hein.
Ouais,
exactement. C'est un petit patron, évidemment, qu'il n'a pas les moyens de regarder. Puis c'est un grand groupe industriel.
Chaque contexte est unique.
Ce qu'on apprend aussi chez les Wobblies, c'est qu'il y a une gradation aussi. Il y a une gradation qui fait que tous ensemble, on peut s'organiser pour aller voir le patron et lui dire X, Y, Z, ça ne va pas du tout. Il faut que ça change. Et là, selon ce que le patron fait, dit ou ne fait pas, à ce moment-là, il y a une gradation dans les moyens d'action aussi. Mais comme il y a un truc que nous, on appelle le « march on the bus », puis c'est vraiment se réunir tout le monde ensemble. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui font... On n'est pas habitué d'avoir ça, de parler tous les employés ensemble des trucs qui ne vont pas bien. Et ensuite, de tout le monde ensemble, c'est quelque chose qui n'est pas... On n'est pas dans le sabotage, là, et on n'est pas... Mais c'est une gradation dans l'organisation, tout le monde ensemble. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire le patron? Est-ce qu'il va nous le donner, notre air climatisé dans la cuisine parce qu'il fait 45? Ou est-ce qu'il va dire, moi, je m'en fous, je vais vous renvoyer? Donc, je crois que, oui, ça dépend, c'est contextuel.
C'est vrai qu'on est dans un contexte où c'est très individuel. C'est chacun pour soi, on marche sur la tête du collègue pour pouvoir grimper dans la hiérarchie.
Bon, c'est un peu l'essence du capitalisme et du christianisme, ça. C'est chacun pour soi.
Mais donc, si j'ai bien compris, donc, des syndicats, il y en a déjà en Suisse qui existent, à Genève en particulier. Mais il y a un nouveau contexte qui fait que il y aurait, ces syndicats-là, syndicats existants, ne sont pas vraiment adaptés aux nouvelles conditions de certaines populations, certains employés vivent comme celles, vous avez dit, des cyclistes. Voilà. Donc il y a besoin d'un nouveau... C'est ça qui expliquerait pourquoi c'est important aujourd'hui qu'on trouve une nouvelle forme, un nouveau type de syndicat.
Je Je ne sais pas si c'est important qu'il faut qu'on trouve un nouveau... Je crois plutôt que c'est complémentaire, étant donné que le contexte en Suisse, de ce que j'en comprends, les gens, ils sont très liés et pris par la paix du travail. Donc, on ne peut faire que certaines actions syndicales dans... C'est très serré comment et pourquoi on peut faire de l'action syndicale. Donc, je crois qu'un groupe comme l'IWW permet d'avoir un peu plus de latitude sans mettre de côté, justement, je veux dire, les gens, ils peuvent faire partie d'unions. Comme les gens qui sont à Berne présentement dans les IWW, il y a plein de syndiqués unions là-dedans qui font du travail syndical sur les deux niveaux et qui ramènent aussi des méthodes d'organisation d'un côté ou de l'autre. Donc, je ne crois pas que c'est un renversement ou plutôt un remplacement. Mais je crois que c'est des méthodes qui sont plutôt complémentaires. Mais c'est mon avis très personnel.
J'ai l'impression qu'en Suisse allemande, il y a plus une culture syndicaliste et de, quelque part, de militantisme qu'en Suisse romande.
Ah oui?
Je ne suis pas sûr. Enfin,
j'ai l'impression.
Peut-être à différents niveaux.
Disons, ils sont plus... Ils sont plus, justement, comme tu dis, ils expriment leurs sentiments. Tout de suite, il y a plus d'actions aussi. Ça se concrétise plus facilement par des actions. En Suisse romande, à Genève, par exemple, on râle, mais il y a rien qui change vraiment, quoi. Ou il y a des choses qui changent, mais on sent que ce n'est pas suivi par une population. En Allemagne, il y a quand même une histoire quand même des valeurs différentes. Il y a des choses qui sont... intrinsèquement liés aux Allemands, que ici, du côté français, on n'a pas.
Bon, du côté suisse, on a une arme fabuleuse contre ça, le référendum d'initiative populaire. Rien n'empêcherait de l'utiliser pour faire des demandes comme ça.
Tous les référendums qui sont passés, les référendums de populaires, je veux dire, c'est même pas 1% des référendums qui ont été acceptés par la population. Je veux dire, en fait, dans la réalité, tu fais ton référendum populaire, t'as même pas 1% de chance que ça puisse aboutir, et encore, si ton projet est bien ficelé, c'est un peu... c'est quand même léger, quand même.
Quelle alternative, alors?
L'alternative, c'est ce que tu dis, c'est un mélange de menaces, de chier dans la colle, de pas comprendre l'information. Le mobbing, à l'envers, le mobbing, c'est pas seulement un chef qui va virer un employé. Et si vous prenez une équipe sur 4, il y en a 2 qui font du mobbing envers leur chef, c'est très, très, très... Ça marche très, très bien. Ça marche tellement bien que c'est interdit. Voilà, le mobbing aussi dans le sens, mais dans le sens... C'est moins de...
Tout ce qui est pétition, grève, etc., c'est très bien, ça montre...
Il faut avoir les gens de notre côté, moi je pense que...
Mais ça n'a aucun point juridique.
L'unanimité, c'est une personne à la fois, s'il vous plaît.
Non, mais tu me demandes, l'unanimité, c'est ce qui unit. Si tu trouves le point qui unit, mais on est à majorité tout de suite. Dans la seconde.
Ouais, c'est une idée. Voilà. C'est ça, c'est une idée, tiens. Maintenant, tout ce qui est un peu là, que j'écoute ce soir, hein, syndicaliste, grève, etc., ça marque la protestation, c'est très bien. Mais comparé à un référendum, ça a le défaut de n'avoir aucun poids législatif. C'est-à-dire que ça force le gouvernement en rien. Les autres, ils rigolent derrière leur fenêtre avec leur verre de champagne.
Tu aperçois que même les choses législatives, ils rigolent pareil.
On va faire circuler. Moi, ça devient un dialogue, c'est pas le but.
Par rapport aux questions législatives, oui, c'est des outils qui sont là et qui sont. Il y a des outils de démocratie directe qui peuvent être assez intéressants.
C'est le seul qu'on ait. Hein.
Mais pour prendre un exemple, par exemple. Moi, je fais partie d'un petit groupe anti-publicitaire et avec d'autres groupes, actuellement, on a passé beaucoup de temps à faire signer une initiative pour supprimer les affiches publicitaires en ville de Genève. Et en fait, c'est immensément de travail pour arriver... c'est énormément de travail, énormément de compromis, énormément de compromission aussi pour arriver petit à petit... On a tous les lobbies en face de nous qui ont des avocats excellents que nous on serait incapables de payer évidemment, qui vont chercher toute la petite bête. Notre projet est assez bien ficelé, je pense qu'il peut tenir le coup. Et puis après, il faut passer On va avoir tous les lobbies en face de nous qui vont faire énormément de pubs, énormément de comptes, etc.
Un référendum leur fait peur.
Ben oui.
Une grève leur fait pas peur. Un référendum leur fait peur.
Non, mais attendez, on est dans le complémentaire. Personne ici va se dire qu'un référendum, c'est une opportunité qui existe en Suisse, qu'on se réjouit tous d'avoir. Maintenant, la question de l'action directe et l'idée d'avoir des syndicats qui peuvent agir autrement que autour de la perte du travail, c'est, c'est ce qu'on a vu dans le film, et c'est quelque chose qu'on reconnaît, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement qui arrive s'il n'y a pas de pression d'une manière ou d'une autre. Et l'action directe, moi, il me semble que l'histoire le montre, que si on veut faire changer les choses, eh bien, il faut quelquefois utiliser des moyens plus importants, parce qu'autrement, c'est toujours dans le rapport de force, c'est pas autrement qu'on va obtenir du changement. Donc c'est ça le but, et un syndicat tel que la proposition qui est faite ici, c'est justement à moins, il me semble, les mains liées que les syndicats aujourd'hui, c'est une alternative. Là encore, on est dans la complémentarité. Il y a cette possibilité de pouvoir mettre en place des actions qui peuvent faire changer les choses et de permettre à ce que les mouvements amènent du changement.
Un exemple à Genève, peut-être quelqu'un d'autre que moi.
Je pensais qu'il y avait d'autres gens.
Non, moi, c'était juste au niveau législatif où pour un référendum, il faut compter minimum 25 000 francs parce qu'on n'a pas tous et toutes à rassembler. On s'est renseigné auprès de notre prof de droit parce qu'on voulait lancer une initiative par rapport à la publicité. On avait marre que l'UDC puisse tous accaparer et que les petits partis, enfin, minimes, ne puissent pas avoir le même droit de visibilité. Et il nous a un peu découragé là-dessus où justement il faut avoir des moyens, ce qu'on n'a pas tous et toutes. Pour les points de vue législatifs, mais il y a des choses qui sont marquées dans la Constitution et pourtant elles ne sont toujours pas appliquées. On a parlé d'égalité tout à l'heure. Encore 17% de salaire en moins pour les femmes que pour les hommes. Donc je pense que oui, c'est une bonne arme qui doit être utilisée autant que possible, mais il faut s'organiser d'une autre façon dans le but de compléter et de peut-être faire bouger les choses, parce que la loi elle est là, mais malheureusement jusqu'à présent elle s'applique plutôt pour le grand patronat, pour les personnes qui ont les moyens, pour les grands avocats, et ça le peuple n'a pas forcément.
Un petit exemple par rapport à ça, justement, c'est la loi, elle peut être écrite mais pas appliquée. Et à Genève, bah, toujours dans cette histoire un peu anarcho-syndicaliste des années 20-30 à Genève, ou syndicaliste tout court, il y a eu les conventions collectives dans le milieu du bâtiment qui ont été signées par tout un certain nombre d'acteurs patronaux au tournant des années 30. Et en fait, qui, dans beaucoup de cas, n'était simplement pas appliqué. Et il y a une petite équipe de travailleurs du bâtiment qui s'appelait la Ligue d'Action du Bâtiment qui ont appliqué des pratiques d'action directe. C'était une petite trentaine d'ouvriers et qui repéraient les chantiers sur lesquels les patrons n'appliquaient pas la loi, par exemple, n'appliquaient pas les conventions collectives, et puis faisaient différentes formes d'action. De la simple lettre à des formes plus radicales, à des blocages, à des destructions de matériel. Et en fait, en quelques années, toutes les conventions collectives du bâtiment étaient appliquées sur le canton. Et c'est l'histoire d'ici, quoi. Je veux dire, c'est des choses qui effectivement peuvent être complémentaires et qui aussi peuvent permettre de libérer aussi peut-être une certaine... Voilà, ça c'est d'autres questions peut-être, mais une certaine peur d'atteindre à la propriété privée, peur d'atteindre aux lois et tout ça. Peut-être que pour faire appliquer les choses, il faut passer outre ça. Et si les conventions collectives en sont arrivées à être appliquées dans le secteur du bâtiment dans ces années-là, c'est parce qu'en fait il y avait une pression de la part d'un petit groupe de personnes qui faisait pression pour que ce soit fait de manière complètement illégale. Mais pendant très longtemps, les grèves étaient illégales. Pendant très longtemps, les femmes ne pouvaient pas voter. Puis les pauvres ne pouvaient pas voter. Et puis en fait, c'est tout ce qu'il y a maintenant, c'est que le produit de luttes qui ont été très dures. Et où il y a eu des morts, et où il y a eu des renvoyés, et tout ça. Et en fait, tout ça peut repartir aussi. Il suffit de voir ce qui se passe en France. Tout ça peut se détricoter très très vite. Et je pense que...
Et puis là, on est gentil, on reste dans l'Europe.
Hein. Oui,
dans l'Asie ou dans l'Afrique, c'est,
je veux dire que
c'est pire que ce qu'on a vu là.
Rien a changé, mais ces luttes ont quand même été utiles. Hein. Le travail des enfants est interdit. Bon, l'égalité des hommes et des femmes, elle n'est pas parfaite, mais disons qu'elle tend à s'améliorer. Il y a les vacances payées, il y a l'assurance maladie, accidents professionnels et non professionnels. Je veux dire, c'est vrai que ça a été tenu de hautes luttes, mais il y a quand même un progrès. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il y a encore beaucoup de luttes à faire, je crois.
Bah maintenant, surtout, on est en train de voir qu'on est en train de perdre tous ces acquis.
Ah, c'est ça le problème.
C'est justement ça, ça va faire que les gens se bougent un peu.
Ces nouvelles formes d'ubérisation, c'est pour contourner tout ce qui a été acquis de hautes luttes.
Mais moi, j'ai une question. On voit qu'aujourd'hui, même, je ne vais pas faire un procès aux syndicats actuels qui font certainement du bon boulot, mais ils sont piégés parce qu'ils sont sont pris dans ces histoires de paix du travail et autres. Qu'est-ce qui nous dit que dans quelques années, vous n'aurez pas aussi des cadres salariés à l'IWW qui vont retomber dans les mêmes pièges et aussi aller dans la même direction que les syndicats actuels?
Aucune garantie. Non, mais c'est vrai, l'horizontalité et l'implication, ça aussi, c'est une lutte de tous les instants. Et au niveau mondial, il y a des discussions. Parce qu'en fait, à Chicago, parce que c'est ça, à Chicago est encore le grand centre, machin, il y a deux personnes salariées. Parce que c'est du travail à temps plein et machin. Et un jour, les gens se sont dit, est-ce qu'il faut vraiment mettre toute la responsabilité et tout le temps sur des personnes qui sont des bénévoles ou est-ce que... Donc, c'est le choix qu'eux, ils ont fait. C'est un choix que d'autres personnes trouvent discutable. Comme moi, justement, je viens de Montréal. Nous, à Montréal, on a toujours dit, il n'y aura jamais de gens qui sont payés pour faire ça. Donc, même à l'intérieur des UWW, c'est des discussions qu'il y a. On n'est pas meilleur que personne. Je crois qu'on tend vers certaines valeurs, justement, inclusives, horizontales et tout ça. Mais ça, il faut se surveiller à tous les instants. Hein. Puis, il n'y a pas une solution magique. C'est pas nous, on est beaucoup plus horizontal que vous, oui, mais nous, on permet à notre employé de partir en vacances 5 semaines. T'sais, vous donc, c'est ça. Donc, il n'y a pas... je suis désolée, j'aimerais avoir une bonne réponse à cette question. Il y a
une bonne réponse.
Mais d'ailleurs, si vous voulez... nous, ça nous fait toujours plaisir. S'il y en a qui voudraient avoir plus d'informations, prendre un café ou savoir plus ce qu'on fait ou vouloir devenir membre ou seulement vouloir prendre un café sans nécessairement devenir membre, on est... on en serait très heureux et heureuse.
Pour renforcer une idée, il faut la pratiquer souvent. Donc, plus de rencontres, plus souvent.
Ben voilà.
C'est chaque jour qu'il faut penser à ces choses. Pas une fois ce soir ici, après avoir vu un film. Je ne sais pas que je dis que quelqu'un le fait, hein, pas du tout. Hein,
c'était pas toi, non, je vois pas.
Nous, on a...
Est-ce que vous cherchez du monde pour agir à vos côtés aussi? Pas juste devenir membre, j'en sais rien. Devenir membre, ça veut dire payer une cotisation puis ensuite oublier tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça dépend du temps et de la volonté d'implication de la personne. Si la personne a des problèmes sur son lieu de travail et que c'est ce qu'elle a envie de faire, ben, fais ça. Si la personne est un peu comme moi, et je suis aux études et je fais du travail administratif et je participe à des belles rencontres comme ça. Et si d'autres gens veulent s'impliquer, justement, tout dépend. Mais c'est sûr, il y a aussi des gens qui paient leur cotisation et qui n'y pensent plus pendant 6 mois. Mais tout à coup, ils reviennent. Donc, on est très ouvert aussi. Et étant donné que c'est des gens, le membership, les gens qui sont membres, c'est pas seulement des gens qui travaillent, c'est des gens qui sont aux études, c'est des gens qui sont au chômage, c'est des gens qui sont à la retraite. Il se passe toutes sortes de choses dans la vie. Donc, des fois, on peut plus s'impliquer, des fois, un peu moins, et nous, ça nous va. Donc, l'important, c'est que les gens
soient ouverts par rapport à leurs capacités. Si quelqu'un nous dit « Ah ouais, moi je vais venir à toutes les réunions, je peux faire ça, 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 ça », finalement on ne voit jamais, ça va être un peu décevant, mais c'est seulement dans notre cœur que ça va être décevant, il n'y aura pas de... il se passe rien.
Pas d'exclusion. Hein.
Non, exactement, non. Donc voilà, donc les deux sont possibles. Les gens qui font du 40 heures semaine pour le syndicat, c'est possible. Les gens qui payent leur cotisation parce qu'ils veulent aider. Parce qu'il y en a des gens aussi qui sont comme ça. Des gens qui font, ben moi, j'ai une famille, j'ai des activités, je suis en Suisse la moitié du temps, j'ai pas le temps, mais j'aimerais bien participer à l'action syndicale et mon seul moyen est ma petite cotisation, j'en suis désolée. Ben nous, ça nous va aussi, là.
Bah la force du syndicat, c'est d'être beaucoup, par exemple. En Suisse allemande, j'imagine que vous êtes beaucoup plus qu'à Genève.
Oui. À Genève, on est quatre. Ce qui est quatre fois plus qu'il y a quelques mois.
C'est une sacrée croissance.
Ouais, peut-être ça va faire comme ça. Peut-être ça va faire...
Mais c'est sûr que ça dépend toujours.
Plus on est, plus... Voilà.
Ben voilà, plus on est, plus les gens, ils ont envie de faire des choses aussi.
Et la cotisation, c'est combien?
Ah oui, on est là. En fait, ça dépend. Le minimum, c'est 3,50 par mois. 3,50, 6, 13. Et les gens qui sont millionnaires, ils peuvent donner 19 par mois.
C'est pas ouvert sur le haut.
Oui, sur les gens payés en euros aussi, étant donné que les autres gens, ils sont ailleurs, les gens payés en ligne.
En Rockefeller, il peut pas
le... Non, pas. Ben voilà, les seules personnes qu'on ne prend pas, c'est les gens qui sont des patrons, les gens qui ont un pouvoir d'employer ou de licencier, on n'en veut pas.
Et les flics?
C'est pas clair, mais non, on les prend pas. C'est parce qu'en fait...
Les vigiles.
Pardon?
Les vigiles, parce qu'ils ont des conditions de travail qu'ils ont vraiment...
Mais c'est ça, en fait. Elle était là, la discussion, surtout que moi, je viens d'Amérique du Nord, et en Amérique du Nord, la précarité, les vigiles, tout ça, c'est... Mais en même temps, c'est un peu le bras armé du patronat. Donc, les discussions restent théoriques, mais il y a des branches aux États-Unis qui ont dit, nous, c'est au cas par cas. Et au cas par cas.
À la tête du client, quoi.
Exactement. C'est à la tête du client, on voit. Puis il y a d'autres branches qui ont dit, nous, c'est catégorique, on les refuse toujours. Et étant donné que les branches sont... C'est très décentralisé. Oui, on a une constitution et tout ça, mais si les gens en Suisse décident qu'il y a un truc de Chicago qui leur plaît pas, ils sont pas obligés de... C'est ça. Voilà.
Vous avez des liens avec les autres syndicats? Des contacts?
Surtout à Berne, entre Unia et les coursiers, en fait. Parce que c'est là que ça bouge quand même pas mal pour créer une branche un peu officielle. Et comme disait Vanessa, il y a beaucoup de coursiers qui étaient syndiqués chez Unia, qui ont aussi un peu une affinité pour l'action des Wobblies, et qui essaient de travailler un peu sur les deux fronts pour allier les désavantages, quoi. Du coup, oui, je pense que oui, c'est plein de liens, quoi. C'est deux mondes quand même très proches.
Par exemple, en Suisse, le syndicat le plus à gauche, on va dire, c'est SSP. Vous êtes en lien avec Pablo Cruchon, tout ça?
Non, pas... pas.
Cruchon, c'est Solidarité. SSP, c'est...
Oui.
Je me demande s'il n'est pas au SSP,
non.
Aussi.
Non, il est pas au SSP.
Il était.
Ah, d'accord.
C'est là-bas que je l'ai rencontré.
Ah oui.
Dans des réunions communes, mais... Enfin...
Pour dire, c'est celui qui est le plus à gauche, quoi.
En fait, bon, nous, à Genève, on n'est pas forcément en contact encore avec eux directement. Bon, j'ai discuté de ça avec des syndicalistes, avec des gens qu'on croise sur les stands, dans la rue, etc. Mais puis, il faut voir aussi que ça fait une année, en fait, que la branche, elle existe. Et que c'est un travail qui est long, en fait, et qui... Construire ce genre de choses, ça prend beaucoup de temps, donc c'est pas, je pense pas qu'on arrive les clés en main avec, on n'arrive pas les clés en main, et on n'a pas, typiquement je pense qu'à Genève on n'a pas du tout les contacts encore avec les syndicats.
Pourtant il y a des petits syndicats comme le SIC, ouais. Qui sont assez proches, exact. De la manière de penser, de faire, bon, qui sont peut-être... plus de votre côté que qu'un UNIA ou ces grands syndicats.
Ben, je crois qu'au niveau individuel, on... Ben, veux pas, Genève, c'est quand même petit. Hein. Ouais, donc, on se rencontre, on sait qui c'est, on se voit sur... Ben, justement, moi, j'ai... Je suivais les MES, tu sais, entre nous, on se parle, on va sur les piquets de grève et tout ça, mais de dire qu'on a un lien institutionnel, à Genève, on n'en a pas. Mais ça aussi, c'est un truc, Noé l'a dit, là, on n'offre rien clé en main. Nous, on offre aux gens de venir et qu'on bâtisse un truc, tout le monde ensemble, tout le monde amène sa joie de vivre, ses envies, ses contacts, son temps.
Du coup, alors moi, j'ai une question. J'ai bien compris que vous accueillez avec beaucoup de bienveillance les personnes. Est-ce que vous prenez position par rapport à des thèmes? Typiquement, actuellement, on a beaucoup bougé sur l'initiative 23 francs, salaire minimum à Genève. C'est un des exemples. Il y a l'article 12, vous savez, l'article 12 de la Constitution fédérale, qui est bafoué en obligeant les personnes qui sont à l'aide d'urgence, 10 francs par jour, à aller pointer au Sahara, service... de rapatriement dans l'aéroport, c'est 6 francs le billet, 10 francs par jour, voilà. Ça, c'est des points vraiment qui peuvent être éventuellement considérés comme centraux. Est-ce que là-dessus, vous communiquez déjà ou pas?
Non. À Genève, pour l'instant, non. Et justement, bah, pour ces raisons qu'en fait, pour l'instant, on n'est pas encore directement peut-être impliqué profondément dans ces choses-là. Après, bon, moi, l'initiative 23 francs, j'ai pris des papiers, je l'ai fait signer partout, mais à titre individuel. Hein. Et puis, ces questions aussi de notes blanches, ou je ne sais pas comment ils appellent ça, de papier blanc, tout ça. Évidemment, et à côté de cette histoire de syndicat, ben, on est aussi impliqué dans d'autres choses, notamment peut-être sur des questions comme ça ou sur d'autres questions. Voilà. Mais est-ce qu'à terme, oui, à terme, je pense que des choses, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses.
Si un tel sujet vous est présenté, du fait de vos agendas, vous vous y intéresseriez.
Oui,
de toute façon, voilà.
Ben c'est... Les réunions, c'est ce que les gens y amènent. Donc, si les gens y viennent avec un sujet comme ça, ben on va prendre position. Mais en fait, moi, ça, c'est mon point de vue personnel à moi. J'aime bien prendre position sur des trucs sur lesquels je peux agir. Parce que sinon, je vais rester assise, puis je vais dire « Ah oui, ça, et oui, ça, et ça aussi », puis là, je vais finir par dire. Puis pendant ce temps-là, il ne se passe rien, j'agis sur rien. Mais ça, c'est mon avis très personnel à moi. Hein, en réunion, on peut prendre... Tu sais, comme par exemple, les IWW mondialement ont pris position sur la campagne BDS. Ils appuient formellement la campagne BDS. Donc oui, on peut prendre position sur plein de choses. Mais c'est ça, à mon point de vue personnel. Hein. Ensuite, qu'est-ce qui se passe avec BDS? Est-ce qu'on... Voilà.
Est-ce qu'il y aurait aussi une lutte qui engagerait les personnes à plus facilement venir à dire les souffrances qu'ils vivent au travail? J'ai l'impression qu'en Suisse, c'est le plus gros du problème, c'est que, ben, bien sagement... on continue à subir et c'est très difficile de venir s'exprimer quelque part. Justement, ces histoires de blacklist ou autres, même si on ne sait pas si ça existe vraiment ou dans quelles circonstances on risque de tomber dans un circuit comme celui-là. Mais je pense que la plupart des choses, elles restent souterraines, elles ne sortent pas. Et comment inciter peut-être à oser parler? C'est ma question.
C'est une bonne idée.
Ouais, bah, ensuite, si on n'arrive pas à travailler, on a honte. C'est honteux de ne pas arriver à travailler.
Après, c'est de la présence. C'est du bouche à oreille, quoi. C'est un petit peu... Mais ça prend du temps, ça prend des années. Et moi, par exemple, je sais que quand j'ai commencé à... Je reviens souvent sur ça, mais je pense que c'est un petit peu... Quand j'ai commencé à travailler, j'ai eu des soucis très vite, quoi. Des insultes de mon patron, des trucs comme ça. Et il n'y avait personne dans mes connaissances, enfin dans mes camarades, dans mes collègues, avec qui parler de ça, parce qu'on en parlait entre nous, mais il n'y avait aucune, un peu une sorte de structure ou d'organisation. On pouvait tous se mettre au clair sur, bon, bah, cette semaine, on s'est tous fait insulter 30 fois par le patron, ça ne va pas. Et du coup, je pense que c'est aussi ça, c'est arriver à aller dans les lieux de travail, faire tourner les mots, puis dire qu'au bout d'un moment, ça suffit, quoi. Mais ça prend du temps, et je pense qu'on en est conscient, mais... Ouais.
Ouais, mais moi, toutes ces choses, je les entends au bistrot.
Oui, voilà, mais c'est ça.
Et puis ça reste dans le bistrot.
Et c'est pour ça qu'il faut... Enfin,
ça sert à ça, les bistrots.
Voilà. Ça sert à... Mais c'est pour ça qu'il faut être présent dans les bistrots aussi. Ouais. Ouais, là, le terrain, c'est partout.
Quoi, ouais, Mickaël pas grand bistrot.
Ouais, non.
Non, mais on sait bien que quand on est dans l'échec, parce qu'on a toujours connu l'échec, on est dans le connu, et c'est beaucoup plus rassurant, quitte à être dans l'échec, d'être dans le connu, que tout d'un coup de réussir quelque chose et d'être dans l'inconnu. Et on voit bien, hein, dès qu'il y a une révolution, on se dit oh là là, ça va donner, ça va être pire et tout. On a peur, quoi, du changement. On préfère être dans l'habitude et tout, quitte à. Voilà.
Et encore plus dans un rapport de subordination. T'as toujours très peur d'aller face à celui qui va te permettre de nourrir le soir, quoi.
Voilà. On te dit toujours qu'ailleurs c'est pire, et c'est vrai, par rapport aux Suisses. Ailleurs c'est pire.
Ouais. Moi, c'est vrai que la peur de l'inconnu est quelque chose de terrible. Et puis, je joue là-dessus, hein. On voit l'initiative monnaie pleine. Là, quand on entend, hein, c'est une expérience catastrophique. On demande simplement que seule la Banque nationale puisse mettre de la monnaie. Parce qu'actuellement, c'est des passe-passe financiers par les grands groupes. Ils font la monnaie. Hein. On n'aura plus d'intérêt négatif.
On n'a pas pris encore conscience qu'on perd les acquis sociaux chaque seconde. On est encore dans les dragons, ça existe.
Mais ça, c'est une question intéressante qui revient. Ben justement, moi, mon contexte, c'est l'Amérique du Nord. Et en Amérique du Nord, les mesures d'austérité, ça fait des années, le tissu social, on en est loin ici de ce qu'on est. Puis encore une fois, comme on l'a dit, en Amérique du Nord, c'est encore bien comparativement à d'autres places. Mais cette question-là, je me la suis posée avec beaucoup de camarades et j'aimerais ça, c'est une question ouverte, là. Comment est-ce qu'on franchit ce pont-là de dire les acquis sociaux, ils s'en vont. Et si on ne fait rien, ils vont disparaître et ne vont pas revenir.
Je pense qu'en Suisse, on a une culture corporatiste qui est très, très puissante. Et la Suisse est un petit pays qui ne possède rien et qui peut seulement s'exprimer par sa capacité à produire. Et puis ça, on l'a super bien intégré. Et il faudrait pouvoir détacher un petit peu de tout ça pour se rendre compte qu'il y a aussi pas seulement quelque chose qui est solidaire et entre patrons et employés, mais aussi d'un côté capitaliste extrêmement fort qu'on ne veut pas regarder parce qu'on a la trouille que ça ne se passerait plus, que notre économie s'effondrerait. Et puis on a un très bon sentiment par rapport aux autres pays de se dire, mais oui, mais en Suisse, on est bien loti, on a une économie super. Voilà. Mais après, ben, on a de la peine à regarder ce qui peut être plus misérable et de savoir que chacun de nous, petit à petit, là, il y perd chaque année. Ça, c'est le truc un peu compliqué en Suisse. Je crois. En tout cas, c'est pour ça qu'il y a très peu de lutte. C'est pour ça, voilà.
Il y a aussi toute une là, peut-être toute une culture de résistance et de lutte à reconstruire, en fait. Moi, je pense que ce serait très intéressant. Ça fait depuis les années 40 qu'il n'y a pas de... Ou alors, de manière totalement anecdotique, qu'il n'y a pas de syndicalisme de combat, enfin, syndicalisme révolutionnaire vraiment affirmé. Et qu'en fait, c'est aussi peut-être une manière de... À petite échelle, hein, parce que ça commence tout petit. Voilà, l'année dernière, on était 6. Enfin, je n'y étais pas, d'ailleurs.
On parle de la Suisse, 30, là, donc. On parle de la Suisse, là.
Au niveau Suisse, ouais. Que c'est peut-être une manière de reconstruire petit à petit, à petite échelle, une culture de combat et de lutte et de mémoire, de reprendre la mémoire de où ça vient, de comment ça se passe et comment ça s'est passé, tout ça. Je pense... C'est aussi pour ça que c'est intéressant, quoi.
Moi, je pense que c'est vrai qu'il faut se rappeler qu'on a des acquis sociaux, mais ils sont pas. Il faut lutter pour les conserver, hein.
les gens ils disent bon ben voilà, hein, 45, les 32 heures, c'est normal, c'est acquis, c'est pas vrai. Hein. Il y a d'autres formes ou d'exploitation qui viennent ici, et c'est une lutte de tous les instants pour conserver ce qu'on a et peut-être même améliorer.
Ouais, pour moi, je pense que ce qui pourrait changer un petit peu la donne, c'est effectivement de pouvoir prendre conscience que nos économies aussi, elles sont déstabilisées par des types, des nouvelles économies qui s'installent comme ces types de vélos, vous parlez d'ubérisation, qui en fait viennent sur place, créent des richesses, mais ces richesses disparaissent immédiatement, donc ils utilisent les infrastructures et ne laissent rien à disposition du pays dans lequel ils débarquent.
Salut.
Et je pense que si on arrivait à voir ça, ben, peut-être qu'on le voit de toute façon indirectement, mais je pense que la plupart du temps on va réagir un peu tardivement, mais on voit bien notre petit épicier qui disparaît, notre libraire qui a de la peine à vendre des bouquins parce qu'il y a Amazon qui vient tout prendre au passage, qui rafle plein de choses. À ce niveau-là, il y aurait sûrement un super travail à faire pour dire ok, on essaye de se recentrer sur le local. Et donc je pense là ça tient compte aussi des questions de comment on est exploité, parce que c'est qu'une question de concurrence, donc les boîtes qui sont ici doivent faire face à de nouvelles concurrences pour lesquelles elles sont complètement démunies, donc qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles grattent bien sûr sur l'employé. Donc pour moi c'est peut-être une approche à considérer.
Tu disais tardif, mais par exemple je pense que l'ubérisation par rapport, tu vois, au courrier à vélo, ça a été une belle réaction quand même, parce que ça a permis à des gens qui étaient peut-être, qui n'avaient jamais eu des expériences syndicales, qui même étaient très peu politisés, de se mettre dans des luttes, quoi. Mm-hmm. Et ce qui s'est passé, par exemple, à Lyon, où tu as eu vraiment des Deliveroo qui s'est organisé en syndicat autonome, mm-hmm. où ils ont arrêté le travail, ils ont revendiqué une reconnaissance de leur travail effectif, tu vois, des trucs comme ça. C'était quand même super intéressant. Et il y a un peu ce paradoxe, c'est que ces formes de travail ultra précaires sont vraiment dégueulasses à vivre, mais d'un autre côté, c'est aussi un moment pour ravir, pour rassembler un peu les gens, quoi. Et ça a permis à des mecs et des meufs qui venaient un peu de partout, qui étaient étudiants, qui faisaient ça sur leur temps libre, qui étaient des chômeurs, qui faisaient ça parce que c'était pas déclaré auprès du Pôle emploi, du coup ça leur permettait de garder, tu vois, des indemnités, enfin, c'était tout et n'importe quoi. Et ça, c'est là-dedans qu'il y a vraiment des trucs. Moi, j'ai des amis qui étaient dans des AG de Deliveroo Lyon. C'était vraiment des ambiances très intéressantes. Et c'est un peu... Ouais, il y a encore de l'avenir. Et je pense que... Ouais, on peut se réjouir de ça, quoi, quand même, un petit
ouais.
peu.
Ouais, moi, c'est chouette. Si c'est l'action syndicale qui a permis de montrer la chose,
ouais,
je suis content. Mais je pense qu'il y a des manières de rendre visible tout ça aussi par plein d'autres biais.
C'est sûr.
Et de le rendre visible permettrait, ben, peut-être... d'améliorer certaines choses au niveau du salariat, peut-être dans une voie qui n'est pas forcément celle de la lutte.
Oui.
C'est celle de la compréhension plus que celle de la lutte. C'est prise de conscience qui permet peut-être ensuite éventuellement d'agir, mais aussi par le fait que c'est bien compris, bien vu, ben, de se dire que ça a du sens.
Ouais, c'est sûr. Le travail, c'est la santé, c'est beaucoup plus commun, c'est beaucoup plus facile, c'est moins fatigant que par exemple être voleur. Alors c'est la preuve, les gens, la majorité des gens sont honnêtes, parce que voleur c'est tellement fatigant, faut savoir quelle histoire on invente, etc., que le travail finalement c'est le plus simple. Voilà. Mais les gens, par exemple, quand ils travaillent, ce qu'ils veulent, c'est avoir un salaire, faire leur petit... élever leurs enfants, etc., etc. Si on agite tout ça, ils ont peur. Quand ils ont peur, ils allument la télé. Quand ils allument la télé, ils voient qu'ils ont encore plus peur, etc. Donc, c'est faire levier sur tout, puis expliquer aux gens, surtout sur le bien-être. Le travail, ça a été fait pour le bien-être. On travaille, on fait un petit effort physique, puis après, comme ça, on a un morceau de viande à se faire autour du feu. Le travail, c'est quelque chose qui est sain. Voilà. Mais sauf que là, maintenant, les gens, ils n'ont plus confiance. Ils se disent, ailleurs, c'est pire. Moi, je ne suis pas heureux. voilà, je suis vieux, je suis bientôt mort, qu'est-ce que je vais faire? Donc, on laisse une espèce, par exemple, juste, c'est une anecdote, j'ai appris ça hier, quoi, dans mon équipe, on a un élève qui va pas bien, parce qu'il est migrant, parce qu'il a une bagarre et tout, cet été, il va rester à Genève tout seul, parce que les autres, parce qu'ils sont surmuets, les autres, ils vont sûrement partir en vacances, il va rester tout seul et tout à Genève et tout, puis il dit, ouais, bah, c'est la galère, je vais être tout seul, j'angoisse et tout. Alors, l'éducatrice au mieux, elle me dit, ah, ce serait bien quand même qu'il y ait une petite activité et tout, machin. Donc, moi, je contacte le centre de Montbrillant. Et en fait, non, ça n'existe plus. Ils n'organisent plus les activités pour les vacances. Enfin, tu dis, pourquoi? Ah, ben, parce qu'en fait, voilà, ça, on ne fait plus. Parce que les travailleurs, les éducateurs, les enseignants, eh ben, ils n'ont plus fait parce que c'était peut-être compliqué. Il fallait demander aux parents qui ne voulaient pas. On demandait trop cher, il n'y avait pas assez de monde et tout. Ben, voilà, ben, finalement, on ne fait plus. Et c'est quelque part, c'est ça. C'est que les gens, ils ne font plus par laisser aller, par fatalisme, ou je ne sais pas. Et voilà. Et une prestation disparaît. Voilà. Personne n'a rien fait. La prestation n'existe plus. Quand tu veux la faire, ce n'est pas possible. Il n'y a pas les fonds d'arrêt. Tout ça parce que des gens l'ont laissé disparaître.
C'est peut-être un acte d'action directe pour obtenir les meilleurs salaires.
Bon. Non. Oui, c'est possible. Tout est possible. Alors, tout est possible. Mais pour dire, c'est faire en sorte que les gens, parce qu'en fait, ils ont plus à perdre qu'à gagner à rien faire. On a l'impression qu'à rien faire, on a plus à gagner que faire. Faire, ça va être compliqué. On va se faire des ennemis. On va se mettre en avant. On aura avec le patron et tout, si je commence à me mettre à tête syndicat, j'aurais peur, etc. Donc c'est peut-être rassurer les gens, et puis les leviers, faire bouger tous les leviers, chacun à son niveau. Vas-y, si t'es organisé, tu fais un truc qui organise les autres. Si t'es communication, tu fais communiquer les gens. C'est vraiment exploiter les compétences de chacun pour un but commun, et le but commun, on l'a ici. Je suis sûr que si on demande à tout le monde le but, on a le même. Quoi.
Nommément, c'est une question donc. Hein.
On a le même.
Et c'est quoi ce but commun?
Le but commun, c'est d'être reconnu par ses pairs, reconnu par ses voisins, avoir des amis, être en sécurité, en paix. C'est ça le but.
Ça va être difficile de mettre Rockefeller dans le coup. Hein.
Mourir entouré.
Pour en venir au syndicat, quand même, moi, juste une chose que je pense que tout le monde a remarqué, c'est qu'il y a, il me semble qu'il y a un déclin dans le nombre de personnes qui viennent rejoindre des syndicats. Il y a de moins en moins de personnes dans les syndicats. Ils essaient d'être le plus présents possible, mais les luttes sont de plus en plus atomisées. Chacun se défend sa propre survie. Voilà. Moi, ce que je trouve intéressant avec les IWW, c'est que justement, peut-être c'est une nouvelle forme de syndicalisme qui peut être plus facile pour les gens de rejoindre. Il y a quelque chose de plus. Il y a un potentiel que je vois. On a parlé des Uber. Aussi, il y a tout change maintenant, les conditions de travail et tout. Il y a plein de changements dans le monde du travail. Et peut-être qu'un nouveau syndicat tel que l'IWW, il y a peut-être possibilité d'en faire quelque chose qui soit plus accessible pour monsieur, pour toutes sortes de personnes, et que peut-être il y aura un avenir bien, enfin il y aura un rôle vraiment pour l'IWW ces prochains temps.
Un nouveau vieux syndicat en fait.
Oui,
c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est des modes d'organisation qui ont presque 100 ans quoi, et qui ont toute leur pertinence maintenant parce que travail tel qu'il est, il n'a pas changé, quoi. Et lui, il revient, tu vois. C'est la question. On dit ça, il arrive.
Juste pour repartir.
J'en profite pour faire tourner une petite boîte. On a des badges, des IWW, si vous en voulez, c'est prix libre. Tous les sous restent à Genève. Nous, c'est pour nos photocopies, pour tous ces trucs-là, mais on a beaucoup d'aide de Berne, donc...
ce soir, par exemple, la bouffe, c'est eux qui nous ont aidés à la payer.
Donc, normalement, la coutume veut qu'on mette quelque chose pour le repas, c'est prix libre, mais volontiers...
Je leur ai piqué la boîte, donc... les badges sont dedans.
Donc, si j'ai bien compris, cette fois-ci, c'est pas en fonction, en faveur... du mouvement, mais en faveur du syndicat,
c'est ça ? Bah, c'est pour rembourser les frais d'achat de la nourriture, c'est ça, et puis les frais divers. Donc, généralement, voilà, ça reste pour la même fonction. Simplement, c'est eux qui ont avancé l'argent cette fois-ci.
On a eu des subventions.
On a eu des subventions. C'est de notre propre syndicat.
Voilà.
Mais là, ce soir, la discussion, j'imagine qu'elle est plus ou moins terminée. Mais si les gens veulent avoir des discussions...
informelles.
Oui, exactement, informelles. Nous, il y a des petites...
Oui, sûrement tard, les gens veulent rentrer. Hein.
Oui, parce que
la discussion, elle est loin d'être terminée. Ça fait que commencer.
Ça, c'est nos activités qu'on faisait pour le 1er mai. Il y a notre email. Est-ce qu'il y a notre email? Non, il ne l'a pas. Mais je peux mettre mon email et si vous voulez, on peut. Moi, ça me fait super plaisir d'aller prendre un café si vous voulez en savoir plus, seulement pour en savoir plus, ou si vous pensez peut-être être membre, ou même sans penser être membre parce que vous avez seulement envie d'en savoir plus, ben moi, ça me fait super plaisir et on va se prendre un café ou un thé ou whatever. Voilà.
Juste avant de terminer, pour revenir à ce film qu'on a vu, hein. Vu qu'on lutte contre des gens comme Rockefeller, qui n'ont aucun souci, scrupule ou pour massacrer les gens, hein. Parler d'action directe, notre camarade avant. Le nom Michael Collins évoque pour vous. C'était un des chefs de l'IRA en Irlande, l'armée révolutionnaire irlandaise. Hein. Et il a organisé la lutte contre le royaume britannique, avec des attentats, hein, des assassinats, hein, des choses très sérieuses. Est-ce que contre des gens comme Rockefeller, est-ce qu'on n'est pas obligé d'en arriver là? Parce qu'eux, ils n'hésiteront pas à utiliser de l'ultra-violence. Pas que je conseille la violence, hein, c'est juste une façon de débattre. Ensuite, j'avais noté autre chose. Ouais, ça a l'air plus ou ça a l'air moins? Quelle est la différence finalement?
Ça reste
cette phrase qui mentionnait de Abraham Lincoln, je crois, qui disait que le salariat, c'est en fait de l'esclavage à long terme. Donc finalement, que vous soyez payé 20 ou 40 francs de l'heure, bah, ça reste de l'esclavage, quoi. Et en plus, ça reste ouvert à la possibilité que dans le futur, on va vous réduire ce salaire. Ce sera peut-être juste pour endormir une génération, pour rendre les gens bien mous. Et puis la génération d'après, parce qu'ils sont patients, ces gens, les riches. Ils sont organisés, patients, hein. J'avais aussi noté, est-ce que l'anarcho-syndicalisme n'est pas idéaliste plutôt que pragmatique et réaliste? J'avais noté là aussi une petite phrase, c'est un vieux truc que j'ai fait là sur Bakounine, hein, qui cite une phrase, sans l'égalité sociale et économique, l'égalité politique sera un mensonge. Ça, c'est de l'anarchisme, d'après Bakounine. La démocratie, elle... on va dire la vraie, hein, celle qui je pense plus ou moins au modèle athénien, là, hein. Je renverse la phrase et je dis, sans égalité politique, alors l'égalité sociale et économique sera un mensonge. Il faut être égaux politiquement avant de pouvoir établir les autres égalités. Ensuite, oui, j'ai noté Steve Biko, ça c'était c'est un martyr en Afrique du Sud, du temps de l'apartheid, hein. On parlait d'idées. C'est l'idée, le principal. C'est une idée, on peut tuer la personne, mais l'idée continue. Et lui, il a dit une phrase, il faut que je traduise de l'anglais, c'est un petit peu... l'arme principale des oppresseurs, c'est l'esprit des opprimés. C'est-à-dire si les opprimés se voient eux-mêmes comme impuissants ou pas assez forts, ou... eh bien, ils gagneront les oppresseurs, toujours. Et aussi, on parlait de... Oui, la peur de changer. C'est vrai, on a ça naturellement. Maintenant, il y a un argument rationnel, une phrase là, que je trouve assez rationnelle qui lutte contre ça. Hein. La peur du changement ou de vouloir le changement, c'est-à-dire rester le même, hein, est ultimement ce qui va vous limiter. Voilà, c'était des petites phrases que j'avais notées, que je demanderai à tout le monde de peut-être réfléchir un peu dessus d'ici notre prochaine réunion. C'était ma première ici avec vous, hein, ça m'a beaucoup plu. J'ai juste part d'un peu de ces anecdotes, là, que c'est un peu tout mélangé, je suis désolé. Hein,
ouais, merci pour ces réflexions. Puisque c'est votre première rencontre, pensez à mettre, et c'est vrai pour tous ceux qui ne l'ont pas, mettez vos coordonnées sur cette feuille, et puis on vous rajoute en une liste de mailing. Les prochaines rencontres prévues, c'est au mois de juin sur l'anarchisme et la science-fiction. Et il y aurait une rencontre sur l'écoféminisme au mois de probablement septembre. Et surtout, venez le 11 mai, il y a une rencontre, il y a une affiche à en sortant là qui est là. Le 11 mai, il y a une fête qui est organisée en soutien au Rojava, à Frinestrova. Et organisé par plein de personnes à Genève, dont les rencontres de Lissignol. Et vous êtes tous cordialement invités à venir, amener vos amis. Il y aura un super repas, puis des discussions et ensuite.
Ici John Connor. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance.
Libradio, www.libradio.org.